DAC numéro 15, enregistré le 27 mars 2015 à l'espace d'art contemporain HEC à Paris. Interviennent Anne-Valérie Delval, HEC, département d'art contemporain. Dora Stiefelmeier, RAM Radio Arte Mobile. Benjamin Sabatier, artiste. Florent Lamoureux, artiste. Donatella Spaziani, artiste. Clément Derrier, journaliste et critique d'art. Valérie Bobo, entrepreneur. Jean-Baptiste Decavel, artiste. Piero Tommassoni, Economy Art Management, critique d'art. Atina Yannou, artiste. Esclarmonde Monteuil, directrice du musée de la Toile de Jouy. Bernadette Legranti, conseil général des Yvelines au sein du programme Art et Entreprises. Giuliano Sergio, commissaire de l'exposition à Anacapri. Fabrice Hibert, artiste. Federico Guiscardo, propriétaire de l'espace d'exposition à Anacapri. Roberto Crivellini, entrepreneur. Giuliana Setari, présidente d'ENA Foundation for Contemporary Art. Jean-Yves Bob, ministère de la Culture, responsable des relations art et entreprises. Isabelle de Maison Rouge, modératrice. radioartemobile.it/phase 2. Anne-Valérie Delval.
Merci d'être tous venus donc à HEC. Et nous sommes très heureux de vous accueillir au sein de cet espace qui va accueillir une prochaine exposition à partir du 11 mai avec en collaboration avec le musée de la Toile de Jouy dont la directrice est là présente. Et nous avons inauguré cet espace et on espère qu'un jour sur le campus il y aura un vrai musée, un grand musée. Et depuis 1999, nous organisons des expositions, des résidences d'artistes, surtout des résidences d'artistes, dans des dispositifs pédagogiques, donc des séminaires, des conférences, et depuis cette année, une académie art contemporain destinée au L3 et au M1. Et puis, depuis quelques années, nous avons lancé une publication, donc qui ont suivi les résidences. Des ouvrages liés aux résidences et une revue que nous avons lancée en 2014 que nous avons appelée 15 et une autre revue devrait sortir à la fin de cette année qui va s'appeler
Dora Stiefelmeier.
Bonsoir. Alors, c'est moi qui vous remercie d'abord. C'est vraiment un endroit merveilleux où vous accueillez et nous accueillez. On a aimer collaborer avec une situation universitaire. C'est bien la première fois que DAC se fait dans une université. Je crois que c'est très important. Dans les remerciements, de toute façon, je dois nommer Atina Suanou parce que c'est à travers une rencontre avec elle que tout ça est parti et va aller très loin. Parce que DAC, c'est comme un train. On y monte, on fait un parcours, on peut descendre, on peut revenir, on peut ne pas descendre et ça va d'un endroit à l'autre. Et ce qui se crée à DAC, ou j'espère que ça va se créer aussi ici, c'est une atmosphère qui est très particulière d'ailleurs des trains où on commence à parler, on commence à voir qui on a autour. Maintenant, du train, on est allé sur le bateau, il me paraît, parce que ce qui est beau ici, c'est que, bon, c'est déjà en avant, parce que d'autres ici vont préciser ça. Ce DAC qu'on fait aujourd'hui, c'est le même, c'est bien le 15e, est d'une certaine façon lié à une île de rêve qui est Capri, Anacapri, et qui est dans notre projet room. Ça pourrait être très snob, non, c'est justement, c'est venu comme ça, parce que la vie est faite aussi de rencontres. Et il y a un monsieur de Anacapri qui nous ouvrira ses portes. Et voilà, on a essayé de mettre ensemble les plusieurs coïncidences fortunées qu'on a trouvées.
Isabelle de Maison Rouge.
L'entreprise telle qu'on la connaît dans le monde contemporain a remplacé le mécène qui a toujours été là pour soutenir les artistes et pour permettre aux artistes de présenter leurs œuvres et de les produire. Donc on va avoir des relations extrêmement variées puisque certaines entreprises créent des collections ou montent des collections qui permettent aux artistes évidemment d'avoir des œuvres achetées, acquises et montrées et aussi qui permettent aux gens qui travaillent dans l'entreprise, aux employés, de bénéficier de cette ouverture de l'art dans leur lieu de travail. Il y a aussi des entreprises qui vont un petit peu plus loin, qui vont créer des fondations. Ça, je pense qu'on aura l'occasion aussi d'en parler au cours de cet après-midi. Donc, ce n'est plus seulement le lieu de l'entreprise qui sert à présenter des œuvres, mais parfois c'est un lieu qui est dédié, qui est hors de l'entreprise et qui permet d'avoir des expositions, et également un lieu de production d'œuvres et d'expositions. Et puis, il y a peut-être aussi des liens qui sont moins évidents et qui sont des collaborations qui existent entre art, artistes et entreprises et qui se situent sur le mode de la production d'œuvres, mais aussi production d'échanges, d'idées. Et il nous semble, je pense, tous ici, très intéressant de voir comment l'artiste peut créer des liens avec le monde extérieur et notamment avec également le monde que représente l'entreprise. Cette variété de figures va nous permettre d'enchaîner ensuite, je pense, sur la conversation que nous souhaitons monter. Et puis dans le petit dossier qu'on vous a remis, qui présente donc les différentes entités qui nous réunissent cet après-midi, nous avons mis un article que nous avons découvert ce matin dans le Journal des Arts et qui parle exactement de notre sujet et qui va nous permettre de rebondir et peut-être d'aller un petit peu loin dans ces relations qui existent, ces collaborations entre artistes en entreprise, peut-être aussi sous la forme de résidence d'artistes, peut-être aussi sous la forme de partenariat pour créer des événements ou des objets. On va se rendre compte que c'est extrêmement enrichissant, très attirant, très, très fascinant au premier abord, mais parfois ça n'est pas si simple. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment chaque partie peut se respecter, comment l'artiste va pouvoir trouver sa place dans l'entreprise, comment l'entreprise va regarder l'artiste, donc un jeu de double regard, et en même temps le respect qui doit émaner des deux entités.
Benjamin Sabatier.
Je suis artiste plasticien, j'enseigne les arts plastiques à l'université de Paris 1 en Sorbonne et je fais partie d'un labo de recherche Recycle qui s'appelle Art et Flux et qui travaille spécifiquement cette question de art et entreprise. La dénomination est plutôt art, entreprise et société et qui engage la réflexion sur la dimension économique, la dimension sociale, de l'artiste et en même temps qui engage des réflexions sur les partenariats entre artistes et entreprises. Alors moi, de manière particulière, je suis plus amené dans ma pratique à questionner la notion de travail, en fait, le départ de ma réflexion, c'est-à-dire d'essayer d'entrevoir quelles sont les spécificités de la création artistique vis-à-vis des autres secteurs d'activité du travail et savoir comment moi, en tant qu'artiste, je me positionne en tant que travailleur. Et cela peut prendre plusieurs formes, soit une forme d'entreprise. J'ai créé une entreprise en 2001 qui s'appelle IBK en référence à Yves Klein et en même temps au magasin IKEA, de manière spécifique pour interroger la dimension marchande de l'œuvre d'art tout en m'inspirant symboliquement des modes de fonctionnement des grandes entreprises multinationales quant à la création, le stockage, le transport, l'exposabilité de la dimension marchande des objets et compliqués à travers ça de l'œuvre d'art. En tout cas, interroger l'œuvre d'art dans sa dimension sociale en l'inscrivant complètement dans le monde et dans la société. Après, j'ai eu des partenariats particuliers avec certaines entreprises. J'ai travaillé avec l'entreprise Michelin, j'ai travaillé avec l'entreprise Clairefontaine pour des questions de production d'œuvres ou dans le cadre de résidences. Alors, je fais beaucoup de résidences, pas forcément dans l'entreprise, mais beaucoup en école d'art, qui m'invite généralement pour aller interroger au niveau local les partenariats et la question sociale et politique liées aux autres entreprises, à l'histoire aussi locale. Donc j'ai fait une résidence d'un an à l'École des Beaux-Arts de Besançon qui s'appelait Coopérative de Recherche et qui était financée par l'entreprise Michelin. Et pendant un an, j'ai travaillé sur l'entreprise en ayant toutes les portes ouvertes pour aller visiter, comprendre le fonctionnement, revisiter l'histoire, sans but plastique en fait défini. D'ailleurs, l'objectif de ce processus-là, c'est terminé par plutôt une conférence, une table ronde où moi j'ai invité des personnes pour aller discuter de ces différents fonctionnements, c'est une question de l'art et l'entreprise. Et on a monté un centre de recherche à l'École des Beaux-Arts de Besançon, donc ça c'était la fin de la résidence qui s'appelait l'art et les mondes du travail. J'ai fait la même chose à l'École des Beaux-Arts de Besançon, mais la plus spécificité pour aller déblayer le terrain sur toute l'histoire politique, économique liée à la ville de Besançon, donc je suis allé sur les traces de Charles Fourier, sur les traces de Proudhon, sur les traces de tous les acteurs locaux, aussi Courbet, bien sûr. Et j'étais parti, ma réflexion était partie du film de Chris Marker qu'il avait tourné dans l'usine Rodia Seta en 1967 et qui a amené en fait un an plus tard la création des groupes Mendelkin, qui était un groupe d'ouvriers qui sont mis à créer à l'intérieur de l'usine leur propre film et tout ça sous l'égide de la Nouvelle Vague. Et donc Godard, Klein ou Marker ont formé ces ouvriers à l'intérieur de l'usine, au maniement de la caméra, au montage. Et toute cette histoire en fait culturelle m'a amené à produire des œuvres et à créer une exposition dans le centre d'art contemporain de la ville. Et le titre reprenait totalement le titre de Chris Marker qui s'appelait « Bien que j'espère ». Et donc en fait, ma relation à l'entreprise se définit dans plusieurs perspectives. Une dimension symbolique, une dimension active et pragmatique, donc dans des relations directes ou dans des interprétations historiques. Et en fait, je ne vais pas dire je m'inspire, mais ma base de travail, c'est le monde dans lequel on vit. Et l'entreprise a une place complètement particulière et extrêmement importante. Et je peux, dans le cadre de ma réflexion, passer à côté.
Florent Lamoureux.
Bonjour, je m'appelle Florent Lamoureux, je suis artiste. Alors moi, mon travail tourne plutôt autour de l'activité humaine. Habituellement, je scrute les postures, les tenues, les uniformes. Et donc, c'est par ce biais-là que, naturellement, j'ai été amené à travailler autour du monde de l'entreprise. Un monde que je peux côtoyer à deux niveaux. Parfois, dans le cadre de résidence, comme l'avait dit Benjamin, et je pense que c'est un détail d'importance, l'idée de la résidence, pour justement pouvoir travailler avec l'entreprise et aussi parce que j'ai et aussi surtout parce que j'ai bénéficié d'un programme de résidence initié par les chefs d'entreprise de Touraine, regroupés sous l'appellation Mécénat de Touraine Entreprise, et quelques artistes sélectionnés étaient invités à être en résidence dans des entreprises. Et donc j'ai pu travailler comme ça quelques mois avec une entreprise de plasturgie. C'est l'entreprise en elle-même, plutôt l'activité humaine dans cette entreprise qui a été mon sujet de travail. Donc, j'ai travaillé vraiment sur, avec leurs outils et matières de production, mais aussi sur ce qu'ils étaient eux et sur tout l'ensemble de l'activité humaine, qui pour moi est vraiment très important. Donc voilà, donc c'est par ce biais je vais pouvoir.
Donatella Spaziani.
Je suis artiste plasticienne aussi. Je suis italienne. Quand j'ai commencé mon parcours artistique, j'ai travaillé avec des objets de tous les jours. Mes premières installations ont été faites avec des langes de lit, table ou jumeaux. Et après, j'avais fait broder des silhouettes sur les langes avec les machines à coudre des boutonnières que les entreprises utilisent pour produire des vêtements en série. Après, j'ai utilisé les centres de production d'une entreprise qui produisait des boîtes en carton et j'avais fait des sculptures en forme de maison. Je suis toujours intéressée pour la transformation et la modification des systèmes de production. C'est pour ça que quand j'ai rencontré le projet Bouvet, édité par Fabrice Hibert, Michelangelo Pistoletto et Zelizia, Je me suis entusiasmée, donc j'ai pensé que je n'étais pas fou. Et là, j'avais l'idée de faire, de dessiner des nouvelles sculptures, explorant les systèmes de production. Donc, j'ai dessiné des matelas qui avaient des versions à partir de formes originelles. Pour moi, c'est particulièrement stimulant et amusant d'éliminer ou ajouter une étape à l'échange. Ce n'est pas important que l'objet de production, mais d'obtenir quelque chose de nouveau à partir d'un objet normalement produit en fabrique. Et donc, c'est là que la sérialité peut transformer un objet et faire ainsi que ça devient unique. Et je crois que l'entreprise, de plus en plus, s'approche à l'art heureusement. Et peut-être seulement pour des questions de prestige, mais dans cette rencontre, nous pouvons créer de nouvelles solutions et de nouvelles points de départure pour l'art et pour l'économie.
Clément Derrier.
Je suis critique d'art, éditeur et commissaire d'exposition. Et par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, j'ai accompagné un certain nombre de projets sur la relation entre l'art, l'entreprise et l'économie, à la fois pour l'accompagnement critique d'art en tant que texte, pour la Fondation d'entreprise Hermès, par exemple, pour des sociétés comme L'Oréal ou Yves Saint-Laurent. Je suis très content aussi d'être à HEC aujourd'hui parce que l'une de mes expériences sur ce rapport entre art et économie, c'était grâce à Manierie Leval d'avoir pu monter il y a quelques années maintenant un électif auprès des étudiants en première année sur un apprentissage de l'art contemporain. Et c'est toujours intéressant pour quelqu'un qui vient du monde de l'art de se confronter de façon assez concrète à une autre pensée, une autre méthodologie, parce qu'un critique d'art, d'une certaine manière, ou un commissaire d'exposition, il est regardé aussi bizarrement au tout début par les gens de l'entreprise et de l'économie que l'artiste. En fait, il y a quand même une sphère de monde qui ne se font semblant de ne pas se comprendre. Et la position de critique d'art dans le monde de l'économie, le monde dans l'entreprise, est aussi quelque chose à légitimer, et ça c'est quelque chose qui est intéressant. En tant que critique d'art, ce qui m'intéresse peut-être dans ce rapport entre art, artiste, économie, c'est la manière dont les artistes, progressivement au XXe siècle, se sont emparés de la sphère de l'économie, au fur et à mesure du développement de la société de consommation, ou de la société post-industrielle. C'est-à-dire qu'au début, l'artiste est plus fasciné par les moyens de production, l'usine, la façon d'utiliser des choses venant de la production. Puis au fur et à mesure, ça s'est déplacé vers le bureau, vers le management, vers les méthodologies du travail. Et ce qui est intéressant d'étudier, c'est la manière dont, en tout cas ce qui m'intéresse, moi, c'est la manière dont l'art, encore une fois, arrive à annexer au domaine de l'art quelque chose qui n'est pas du domaine de l'art et arrive à cannibaliser d'une certaine manière quelque chose qui extérieur. Un des titres pour lesquels je suis là aujourd'hui, c'est sans doute d'avoir accompagné entre 2009 et 2013 la résidence d'artistes Borogood Consulting, qui était une résidence d'artistes dans un cabinet de conseil en stratégie et management. Et je rejoindrai Florent en disant que la résidence d'artistes est sans doute le mode opératoire le plus pertinent et le plus intéressant pour travailler cette relation entre l'art et l'entreprise.
Valérie Bobo.
Moi, je suis complètement issue du monde de l'entreprise. J'ai commencé toute jeune parce que j'étais ici, sur son campus. J'ai fait du conseil en management, j'ai une poste, des postes de direction marketing. Et puis, j'ai créé une entreprise il y a 12 ans qui s'appelle Mona Lisa, dont l'objectif est, alors si on se met dans les catégories qu'a pu évoquer Isabelle, plutôt dans la troisième case, à savoir à monter des collaborations entre des entreprises et des artistes, à savoir que moi je pars vraiment du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire des sujets qu'elle a à traiter, qui sont des sujets de transformation, des sujets d'innovation, et que je développe des méthodologies avec des artistes pour répondre à ces besoins d'entreprise. Donc je pars vraiment de l'objet social de l'entreprise, et je vais voir le monde de l'art pour voir comment résoudre ces sujets. Alors, il se trouve, je vous dis qu'il y a vraiment deux types de sujets sur lesquels j'interviens plus, qui sont des sujets de transformation, d'innovation, parce que je pense, et c'était le point de départ que j'ai vu quand j'ai créé Mona Lisa, On est à une époque où, en gros, le management par les process a montré ses limites et qu'on est à la recherche de nouvelles solutions, que tout ce qu'on apprend dans nos belles écoles est toujours valide d'une certaine façon, mais touche des asymptotes et qu'il faut trouver d'autres façons de travailler, d'autres façons de regarder le monde. Et c'est justement ce que je vais chercher dans le monde de l'art. Je pourrais vous parler d'un certain nombre d'expériences, Isabelle en a même connu. Une des plus emblématiques que j'ai eue notamment avec l'entreprise Leclerc, enfin une des entités de Leclerc qui s'appelle Citec. Il s'agissait pendant, ça a duré un an comme projet, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a eu l'expérience de la durée qui permet de faire bouger les lignes. Il s'agissait d'accompagner un déménagement d'entreprise et de faire réfléchir tous les salariés aux valeurs qu'ils unissaient. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'ateliers qui ont été matérialisés in fine par une œuvre d'artiste réalisée par Stéphane Calais, aussi avec l'appui de Mathieu Lehaneur, et œuvre qui existe toujours dans leur logo, qui a vraiment incarné un moment fort de point de bascule de culture et de valeur dans l'entreprise, et qui a été un moment aussi qui leur a permis de se parler au-delà d'identité de rôle, d'aller au-delà de figures classiques qu'on avait dernier temps pour finir le cycle de temps inventé. Je pense qu'il y a un travail d'interfaçage qui est très important entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. On a commencé à ébaucher dans le bus en venant, mais il y a effectivement des questions sémantiques, des fois, qui peuvent se poser, et qu'on ne va pas forcément définir les choses de la même façon. Il y a donc tout un travail de traduction, je dis que je suis bilingue, pareil, entreprise, d'une certaine façon. Il y a un travail aussi à faire sur des fois des représentations qu'il peut y avoir entre des artistes et des entreprises. C'est deux mondes qui sont tant regardés en chien de faïence. Donc l'évolution est restée faite.
Jean-Baptiste Descavelles.
Si ça fait peut-être une dizaine d'années que je collabore avec l'architecte Una Friedman. Et depuis 4 ans, que j'ai surtout parlé du travail avec TAC, que nous collaborons avec Dora et Mario. Je pense que j'ai été invité à participer à une exposition chez Dora et Mario il y a 3 ans, et l'exposition que nous avions fait avec Una Friedman, c'était de faire une adaptation d'un de ses projets historiques qui est la ville spatiale, et de transformer la ville spatiale comme un prototype de musée. Et suite à l'exposition, il y a eu le premier TAC là, à l'hôtel à Rome. Et il y avait des industriels qui sont dans le métal. Et j'ai proposé donc à Yona de travailler autour de l'idée du musée mobile. Ce que je veux dire, c'est qu'en 3 ans, donc, ensemble, nous sommes passés avec différentes entreprises. Donc, il y a eu Antinori, le producteur d'un, il y a eu Firuga, il y a eu d'autres personnes. Et sur la réalisation d'une idée, en collaboration avec des entreprises très spécifiques, ont envie de collaborer avec les artistes, et de passer de l'idée vers la réalisation du prototype et vers la réalisation du musée HL1 comme chez Livio Feluga. Et ce qui est notable pour moi dans ce genre de collaboration, c'est, je pense, à quel point les relations entre les entreprises et les artistes sont proposées, c'est à quel point c'est complémentaire. Et je pense que dans l'expérience que j'ai eue dans ce domaine-là et qui se poursuit, c'est qu'il y a vraiment une potentialité au niveau des savoir-faire, au niveau de l'intelligence, au niveau des idées. Et il y a aussi, pour moi en tant qu'artiste, la nécessité de sortir de l'objectivation de l'idée et d'arriver à mettre en place une forme ou des structures qui soient la conséquence de process collaboratifs comme ça. La dernière fois, c'était avec Feluga en Italie. Et donc, il s'agissait de construire sur une colline le Vine Museum, qui est un musée du paysage. Donc, j'ai travaillé avec les gens de l'entreprise, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec la famille Feluga. Moi, je trouve que ça m'intéresse de donner de ça. Je pense que c'est une expérience extraordinaire, parce que la conséquence de ce que vous mettez en place, c'est la conséquence de toute cette dynamique, de toute cette énergie, de toute cette volonté d'arriver à créer des structures et des formes différentes. Je pense que la particularité peut-être aujourd'hui dans la mise en rapport des artistes et des entreprises, c'est que ça permet de générer des alternatives économiques au niveau d'entreprise et aussi des alternatives de créativité pour les artistes. Et donc l'enrichissement dans la réciprocité que j'ai eu chaque fois entre Antinori ou Feluga ou d'autres personnes, je trouve qu'il y a un potentiel et que c'est très bien de se retrouver ici, parce que autant que nous sommes en tant qu'acteurs économiques dans ces domaines très différents, mais qui pour moi sont très reliés, on a une capacité d'action. Et on est dans une période de crise économique, de crise sociale, de crise idéologique. Et il y a nécessairement le besoin d'action. Et moi, ça m'intéresse de travailler avec les entreprises parce que c'est un moyen qui touche toutes les structures sociales et idéologiques et politiques de la société. Et donc, je suis très, très content d'être ici avec vous pour parler de ça. Et aussi pour montrer à quel point, en 3 ans, si vous voulez, par exemple, avec BAC, nous avons été en mesure de réaliser des projets qui permettent, qui sont très affirmatifs par rapport à ces aspects-là.
Piero Tommassoni.
Bonjour, je suis Piero Tommassoni. I'm a curator and art critic and based in London. I've known Mario and Dora since I can remember, since I have one of my mentors, perhaps the first person that really took it upon himself to teach me about contemporary art and about art in general was an Italian artist called Getulio Alviani, who was an artist that Mario and Dora have worked with for many, many years. And he, being a direct descendant of the Bauhaus tradition, he always stressed the importance of how art can have an impact on life, but also on production and industrial design and, you know, architecture, design in general, in a way that impacts our life by adding that extra form of intelligence. You would probably use that word, you would probably say intelligence, which is what art aspires to more than perhaps any other form of creativity. That's why that also having a background in finance and law today while working as a curator and art critic, I often get approached by entities that are outside the art world that have an interest in art, either, as you were mentioning earlier, because they want to create a collection or perhaps a foundation, but even for introducing within their ethos and within their culture, an element, a foreign element that comes from art and that gives that extra step, that extra intelligence. That and then very recently I heard examples of this that were very successful, and perhaps we can discuss them later on in the course of the meeting. But this is, I think, why I was particularly interested in DAC. And eventually, when I met Federico, I thought that Capri would be a great place to do one of these meetings, and I introduced him to Mario and Dora, and hopefully this will happen soon.
Atina Yannou.
Je m'appelle Atina Yannou, je suis artiste plasticien. Je travaille au sujet de la peinture, l'exception d'un tableau dans un espace nouveau. Et comme espace, j'entends pas seulement l'architecture du lieu, mais sûrement le contexte dans cet espace existe et s'expose. Ça veut dire contexte politique, géographique, géopolitique, social, économique, artistique. So, à partir de ça, à mes yeux, c'est impensable, voire impossible, imaginer de réaliser une œuvre, achever un projet artistique sans une collaboration étroite avec tous les facteurs, disons-nous, puissent collaborer pour réaliser cette idée. Je pense que l'artiste en soi est une entreprise. Je pense que le tableau, dans son extension, c'est une fenêtre au monde. Donc à partir de ça, dans ce monde qui nous entoure, j'espère de trouver l'interlocuteur et de collaborer en dialogue et qu'on puisse vraiment avancer. Sinon, je ne vois pas comment aujourd'hui, sûrement aujourd'hui, un artiste puisse continuer à travailler, parce que l'histoire de l'atelier a changé, tout est fini. Donc c'est vers l'extérieur, je pense, qu'il fallait plutôt aller et d'être bien accompagné avec de nouvelles idées et projets pour l'avenir. Je viens achever un projet, et maintenant ça va continuer jusqu'à la fin du mois de mai, qui est ce projet invité par la ville d'Arpont. C'était un projet que bon, j'ai été en résidence plusieurs mois. Donc ce projet en collaboration avec la ville qui est, s'est tendu dans la ville même en différents endroits avec les installations que je fais. Voilà, c'était en collaboration étroite avec tout ce système enfin, qu'il y a à voir, mais qui n'est pas forcément spécialisé dans le monde d'art contemporain. Donc et ça, c'était nouveau pour moi, mais c'était hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y en avait une telle volonté de réaliser mes idées en collaboration, dont on a presque inventé et trouvé toutes les entreprises qui nous accompagnaient et que même l'entreprise, dans cette midi français qui n'était pas tellement habituée à travailler dans le monde de l'art, c'était une telle surprise, donc voilà, c'était très beau. Mais la nouveauté de tout ça est que ce n'est pas forcément donné qu'il fallait être spécialisé dans un domaine pour réaliser, et ça c'est vraiment une...
Esclarmonde Montaille.
Je suis conservatrice du patrimoine, directrice du musée de la toile de Jouy, ici de l'autre côté de la vallée de la Bièvre, à Chenon-Josas. Alors moi j'aime bien aussi un petit peu les deux dans mon parcours personnel, entreprise et art, en ayant choisi finalement le domaine de l'art, parce que j'ai commencé par être diplômée d'une école concurrente, donc l'EM Lyon, en finance internationale, et puis après j'ai bifurqué vers l'école du Louvre et l'histoire de l'art. Et puis, surtout, on m'intéresse et ce qui peut correspondre avec une différence de 200 ans au sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est la figure d'Oberkampf, puisque Oberkampf, fondateur d'une des toutes premières entreprises industrielles de France, hein, la manufacture des toiles de Jouy, il a employé jusqu'à 1200 personnes. Alors lui, il ne se posait pas la question d'une division de collaboration entre l'art et l'entreprise, parce qu'en fait, le concept d'entreprise existait très peu à l'époque, mais il est tout à fait conscient de la valeur de l'art, puisque une des choses qu'il disait, c'était que la chose primordiale pour son travail, c'était le dessin. Il a employé des artistes académiciens pour lui demander des dessins. Il avait aussi des dessinateurs à demeure dans son entreprise, mais il a aussi fait des liens avec d'autres parts de l'art, puisque au-delà des arts plastiques, puisqu'il a repris des motifs aux opéras, à la littérature, et il a transformé tout ça en tissu. Un autre problème aussi, c'est que justement, un musée d'art décoratif, pendant longtemps, en fait, les tissus n'ont pas été considérés comme patrimoniaux, objets patrimoniaux, ni objets d'art en France. C'est assez récent qu'on considère les textiles comme objets d'art, entre guillemets. Parce que justement, c'était des choses qui étaient produites en grande quantité et que le côté artistique s'était un peu dilué dans la fonction et dans l'utilisation des textiles. Nous, au musée, on se retrouve à cette croisée des chemins, à devoir expliquer aux visiteurs à la fois le processus technique, l'intérêt d'Oberkampf comme entrepreneur et fondateur d'entreprise, et à la fois ce côté artistique des toiles de Jouy, qui existe seulement en comparaison avec ce qui était l'art contemporain à l'époque, puisque en fait les dessinateurs de la manufacture s'inspiraient beaucoup d'œuvres d'artistes quand ils n'embauchaient pas lui-même des artistes, et ces œuvres circulaient à l'époque principalement par les gravures. Donc c'était comme ça que toute cette production artistique du 18e pouvait circuler et être reprise jusque dans les intérieurs finalement les plus modestes, grâce aux évolutions techniques d'entreprises comme celle d'Oberkampf, puisque c'est grâce à l'emploi des plaques de cuivre pour imprimer sur les tissus qu'il a réussi à en baisser le coût et à diffuser dans presque toutes les couches sociales ces œuvres d'art en fait, qui existaient au départ en peinture. Donc voilà.
Bernadette Legrinzi.
Bonjour, Bernadette Legrinzi, conseillère générale des Yvelines. Donc moi je viens juste... juste vous écouter, puisque nous, au département, se pose des questions sur comment l'art et effectivement les politiques culturelles peuvent s'approprier aussi la dimension entreprise.
Giuliano Sergio.
Bonjour, je suis Giuliano Sergio, donc historien de l'art, commissaire. Et j'ai travaillé pas mal avec des institutions. donc pour montrer des projets d'exposition, surtout avec la photographie. Et la chose qui m'a vraiment intéressé dans cette idée de DAC, dans cette idée de travailler un projet nouveau, c'est justement ce déplacement qui se propose ici. À mon avis, c'est peut-être la clé la plus intéressante de voir ce projet, c'est-à-dire de sortir d'une certaine façon de la question de l'art telle qu'elle est proposée par les institutions, où il y a vraiment une sorte d'institutionnalisation, une sorte de production de ces expositions, de ces objets. C'est vraiment des industries, voilà les institutions. Hein. D'une certaine façon, on a une sorte d'internationalisation, d'unification de l'idée d'art. Et par contre, peut-être, c'est plus intéressant de ne pas sortir du système, mais de déplacer, de tenter des parcours qui côtoient le système, qui mettent à nouveau en rapport l'art avec l'industrie d'une façon nouvelle, d'une façon à laquelle l'art et les artistes et les entrepreneurs puissent trouver des voies nouvelles pour collaborer, que ce ne soit pas la voie classique, forcément classique des productions, mais hein, que, tout simplement de aussi des productions, mais aussi de répondre à une géographie, par exemple. Déjà l'idée de faire un DAC à Capri, plutôt que dans un autre endroit, ça change complètement la donne. Ça peut créer un projet artistique qui est lié à une géographie, à un lieu, un rapport qui se crée autour de cette idée. Donc voilà, il y a aussi ce côté géographique qui m'intéresse beaucoup et que je pense qu'il est un élément très fort de ce projet. Donc une relation entre art et entreprise qui doit permettre des nouvelles voies, des nouvelles suggestions, des nouvelles possibilités aussi de penser le produit, disons l'objet, hein, pas cet objet si statique à réaliser, mais plutôt un projet.
Paris Hibert.
Depuis longtemps, je m'intéresse beaucoup aux milieux d'entreprise, mais je vais peut-être démarrer par le fait que au tout début, en fait, je faisais beaucoup de choses, beaucoup de recherches dans beaucoup de domaines différents et je voulais être insaisissable, pas du tout être cernable par qui que ce soit et glisser des mains comme la savonnette dans le bain. Et pour glisser des mains le plus magistralement du monde, j'ai voulu faire le plus grand savon du monde. Donc ça, c'est en 90, j'ai imaginé fabriquer savon. Je me suis approché de l'entreprise de savonnerie à Marseille où j'ai demandé 21, ils m'ont offert 22 tonnes de savon de Marseille pour annuler une semaine de 4 ans. Après, évidemment, c'était un enjeu, c'était une sorte de challenge pour moi, mais je me suis aperçu à ce moment-là que mon intervention dans l'entreprise a permis aussi de fédérer des gens autour d'une production particulière qui était un peu dévalorisée à ce moment-là. Et petit à petit, ils ont repris ça à leur compte et ils ont développé plein de nouveaux produits. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc, j'en ai parlé à mes copains artistes. On a créé à ce moment-là une entreprise en 21 ans maintenant, qui s'appelait UR, Unlimited Responsibility, qui était une entreprise pour produire des œuvres, avec des échanges avec des entreprises. À ce moment-là, les entreprises n'étaient pas tout à fait très partenaires potentiels, mais il y avait des collectionneurs qui étaient souvent des chefs d'entreprise, ou qui avaient parfois des activités dans l'entreprise assez clés. Donc, petit à petit, je motivais un peu tous ces collectionneurs qui sont devenus producteurs et qui ont commencé à démarcher un peu des artistes pour produire, enfin même on produit des œuvres pour des artistes. Et puis après, avec la rencontre avec Dora et Mario, quelques années déjà, on a monté un projet de réseau, et avec Juliana aussi, un réseau de lieux de production, de structures de production à travers l'Europe qui s'appelait Woolways, Michelangelo Pistoletto, d'autres personnes comme ça, on avait démarré en 1999. Et petit à petit, maintenant ça s'appelle la DAC. C'est ça?
Oui.
Voilà. Et ça, c'est. Enfin, petit à petit, évidemment, ça s'est développé. Et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas seulement une possibilité de faire que les artistes aillent des entreprises. Il y avait tellement de possibilités différentes. Donc je me suis dit, c'est le moment maintenant de créer une sorte d'école, de formation, ou je ne sais pas comment on dit. Une école qui est créée depuis déjà deux ans, qui s'appelle Les Réalisateurs, qui permet de jeunes artistes que je coach, permet, en leur permettant de trouver des moyens de production dans des entreprises, dans des réseaux, dans des moyens de production sans argent. Alors, l'idée, c'est vraiment de leur apprendre à démarcher pour réaliser des choses.
quelquefois. Et en fait, très étonnamment, ça ne donne pas des projets qui sont monumentaux ou un symbolique, comme tu disais, mais ça donne des projets qui sont très insérés dans le milieu, dans l'activité de l'entreprise, qui sont des œuvres, qui restent des œuvres, mais qui sont complètement informelles, très différentes dans la formation des œuvres.
Federico Guiscardo.
I'm Federico Guiscardo, and I'm the person who lives in Capri. I have I had from my grandmother quite a big property in the very center of Anacapri, with a huge garden being in the very center, the 700 square meters. It's an old neoclassical Capri style garden. And I decided it was pretty useless to have it like that, and I decided to make it public. The best option for me, as Donatella saw when she came to Capri, also because I wanted to do that, was to turn it into an art gallery, a place where it's possible to show, to have any kind of art performances, also music. At the beginning, I thought I wanted to make a sort of a theater too. But then in Italy, everything is very much complicated, and I had some problems with the region superintendents, it's called in charge for the arts. Fine arts, and it took like 3 years to have permission, so it was so much complicated that in the end I decided to leave it like that, and it's an open air art gallery, and I hope you will see it, and then all these artists and Mario and Dora will decide what to exhibit there. And now it's quite important in the island because it was considered a hidden garden. No one knew that there was something there. Now walking in Anacapri, there is this huge space and very peculiar, close to the main museum of the island, that is just on the other side of my house. My house is in the main square, and then there's the museum, on the other side there is the garden. So I wanted to create a sort of network of art, starting from Villa Axelmonte, San Michele, the very famous villa that now has been considered the most beautiful garden in the world, actually, last month. It's like a museum, a house museum, with Roman statues and also Roman chambers hidden. And then there is my garden that I wanted to turn it into a contemporary art space. And then there is the museum Casa Rossa, where there are many paintings when Capri was considered the island of the painters. Also, there were many also. Then there is a church that is Baroque, just nearby. And it's very strange that such a beautiful church is on such a small island like Capri. And so it's like Capri, you know, it's a place where the tourists are more foreigners than Italian. It's a very beautiful scenario for these kind of meetings and exhibitions.
Roberto Crivellini.
Bonsoir, Roberto Crivellini. Je voulais vous présenter mon témoignage sur le fait que l'art et l'entreprise sont vraiment très bien liés. Je veux lier à ce que Dora et Mario, merci à eux qui m'ont permis d'entrer dans ce circuit très important. Dora avait mentionné un mot qui est un mot clé, le mot de coïncidence, que je veux aussi approcher au mot du destin. Donc, j'étais entrepreneur, j'ai une industrie textile, je m'occupais d'art pendant 25 ans, dans le sens que j'ai toujours aimé et collectionné l'art, connu les artistes, connu l'expérience de l'art, du monde de l'artiste, qui est d'inventer de nouveaux mondes, de créer des symboles. Et la coïncidence était qu'en 2013, j'ai dû cesser l'histoire, l'entreprise que j'avais gérée pendant plusieurs années. Donc, on sait qu'on dit une porte se ferme, une porte plus grande s'ouvre. Et voilà la coïncidence où j'avais pensé depuis beaucoup d'années d'essayer de mélanger ce que j'aimais beaucoup et ce que je faisais comme business. À un âge senior, je dirais, j'ai essayé de mettre ensemble les éléments très importants de ma vie, c'est-à-dire le textile que je connaissais très bien, l'industrie, l'entreprise, et là, dans le sens que grâce à Dora et Mario, j'ai connu Fabrice. Je suis entré dans l'idée, le monde, la possibilité de mélanger de façon très profonde le produit avec l'art et l'entreprise. Il y a un artiste que j'ai connu depuis des années qui a dit une phrase qui est la base, disons, de ce que je pense. Que doit-on penser des liens qui lient l'art, la publicité et le commerce? Donc, si on veut, l'art est un produit, en même temps, c'est le produit le plus inutile et utile du monde. Dans le sens que les artistes, ils font des produits, ils font quelque chose pour se lier au monde, communiquer, et en même temps, c'est quelque chose qui lui sert pour vivre économiquement, pour faire l'histoire. Bref, alors, j'ai lié l'art, les artistes, l'idée. L'art romain a toujours été une façon de regarder au monde de façon, comment on dit, transversale. J'ai profité, j'ai pris un produit très simple, le produit que j'ai envoyé toute ma vie, c'est une petite chaussure. Culturellement, c'est proche à ce que les Espagnols ont fait depuis des centaines d'années, comme l'espadrille. Mais c'est une chaussure qui vient du Frioul, que le paysan du Frioul ont fait depuis 100 ans, avec du matériel de recyclage et récupération. Donc je pensais que les artistes auraient pu interpréter de façon belle, inusuelle, ce produit-là. Et là, à ce moment-là, heureusement, cette année, après 2 ans de travail, on est en train de partir avec une petite entreprise qui est basée sur l'art et l'échange de nouvelles idées sur un produit. On verra, j'espère. Très bien. Merci.
Giuliana Setari.
Je suis collectionneur d'art contemporain avec mon mari. Très reconnaissante pour cette invitation aujourd'hui. Parce que d'abord, nous sommes sur un campus universitaire. À ce moment historique de notre société, nous savons que l'éducation et repenser aussi ce que les écoles et les universités peuvent pour reformuler notre civilisation et notre société, c'est fondamental. J'ai d'une façon ou de l'autre, pendant beaucoup d'années, participé à la scène artistique. J'ai appris beaucoup de choses aux États-Unis, la recherche de fonds, le financement, d'une façon informelle, mais j'avais appris beaucoup de choses. Et en rentrant en Europe, j'étais aussi très consciente de la difficulté de jeunes artistes italiennes, la possibilité de mobilité, de se déplacer. J'ai vécu beaucoup à l'étranger avec mon mari, en Belgique, aux États-Unis notamment. Et j'ai voulu faire quelque chose en 2000, dans l'année 2000 justement, et déjà 15 ans maintenant, de fonder une organisation à moi pour pouvoir agir d'une façon plus présente sur la scène artistique. Dora a été à mon côté avec un petit groupe d'amis, fondation qui s'appelle Dina Foundation for Contemporary Art, qui porte le nom de ma mère, Dina Desdemona. Une des missions principales, c'était justement de favoriser la diffusion, la promotion de la jeune scène artistique dans le pays de résidence, qui se sont passées d'abord à New York et maintenant à Paris, au centre d'Henri Collet. Pas évidemment en travaillant toute seule, mais avec des partenaires. Voilà, mon collaboration a été faite. Moi, j'ai toujours cru dans la possibilité, dans la nécessité de mener des actions en collaboration, d'abord pour la taille qui m'était possible avec mon organisation. Donc, j'avais un projet, mais je savais que ce projet pouvait être mené à bien des partenaires. La question d'aujourd'hui de l'art et de l'entreprise, c'est aussi, je trouve, très important parce que l'art, c'est une source d'éducation de nouveau. C'est ce qui a été pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. C'est le sens de la responsabilité qu'on apprend parce que l'œuvre d'art, c'est cette chose mystérieuse, énigmatique qui nous passionne. Donc l'œuvre d'art nous oblige à la respecter. Et c'est cette idée bien plus loin que par rapport à l'œuvre en tant que telle, mais avec l'autre et avec la société.
Jean-Yves Bob.
Je travaille au ministère de la Culture. J'occupe un poste qui a été créé assez récemment, il y a 4 ans, qui a pour objet les relations privées-publiques dans le domaine des arts plastiques. Nous réapprenons à parler. Un peu, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme Monsieur Jourdan qui découvre qu'il parle la prose, puisque ces relations sont historiques. L'essentiel de nos collections publiques sont issues d'actions privées, de collectionneurs, d'associations d'amis, de sociétés savantes, qui ont, en dehors des pillages de nos voyages en Italie, dont nous avons ramené quelques souvenirs, en dehors de cela, une bonne partie de nos collections publiques sont à l'origine des collections privées, qui continuent d'ailleurs à s'enrichir de donations très, très régulières, avec quelques très grands exemples récents, celle de la donation de Yvon Lambert à l'État, d'une partie de sa collection personnelle, et un peu plus longtemps, une donation de Gottfried de Neger et de Sibylle Albers-Barrier à l'État aussi. Et ces œuvres sont exposées en permanence dans un centre d'art qui se trouve à Montsartou, dans le sud de la France. Nous renouons aussi avec l'histoire, parce qu'il n'y a pas eu que la manufacture de Vercors, mais il y a eu aussi les politiques volontaristes à l'époque de Louis XIV, me semble-t-il, qui avaient contribué à créer des manufactures qui associaient complètement la production en grande série, on va dire peut-être pas industrielle, et les artistes, je pense au mobilier national bien évidemment, et aux manufactures des gobelins de la savonnerie. Pour donner que quelques exemples, mais si on revient au XIXe siècle, une partie de nos écoles des beaux-arts était associée aussi à des entreprises. On peut parler de Limoges et de la porcelaine, d'Aubusson et de la tapisserie. Donc il y a une histoire quand même aussi. Donc nous renouons, je pense, avec cette tradition, et en y associant aussi un autre aspect qui est fondateur du ministère de la Culture, c'est la tentative de favoriser la rencontre, le lien de tous nos concitoyens et les œuvres d'art. Je pense que c'est fondamental, et c'est ce qui nous amène de manière plus évidente depuis 2 ou 3 ans à favoriser, à travers la reprise de dialogue avec les comités d'entreprise, avec les syndicats, cette question de la présence de l'art. Alors, non pas seulement dans l'entreprise ou avec l'entreprise, mais un peu comme le disait Benjamin Sabatier tout à l'heure, avec les mondes du travail. C'est d'ailleurs le chantier sur lequel nous sommes actuellement. La question est de tenter, comme vous êtes en train de témoigner là ici, de favoriser les liens, les rencontres entre tous les acteurs de la société qui, à un moment ou un autre, se sentent concernés ou pensent ne pas être concernés, parce qu'il y a cette mission aussi de contamination. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut rajouter au vocabulaire qui vient de se constituer déjà, mais cette idée de la contamination qui nous amène donc à réunir des représentants syndicaux, des comités d'entreprise, des salariés, des chefs d'entreprise, des universitaires, des responsables de structures culturelles et bien évidemment au centre des artistes, des enjeux qui sont à débattre. Quelqu'un a évoqué tout à l'heure la question de la sémantique, du vocabulaire. Il y a aussi déjà ce socle-là à définir de quoi parlons-nous. On voit bien que dans les témoignages que vous venez d'apporter les uns et les autres, peut-être, et vous l'évoquiez aussi, il y a une nécessité d'être bilingue, voire plus. Je remercie d'ailleurs nos amis qui, dont le ministère de la Culture, espère pouvoir être porteur, c'est-à-dire de favoriser la constitution de citoyens libres et égaux et responsables dans leur vie. Et peut-être que l'art peut être un des éléments, un des outils, une des voies, une des ouvertures, une des fenêtres, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Isabelle de Maison Rouge.
La carte blanche à l'artiste en général, je pense, c'est une opportunité à gagner pour développer un projet intéressant. Toujours un échange. Je ne sais pas s'il existe vraiment la datation, si le mot datation c'est le bon mot à l'utiliser, mais je pense plutôt à l'échange, le décoté en dialogue qu'on puisse se développer. Mais la carte blanche, c'est super important pour qu'on puisse vraiment avoir la chance et la possibilité de voir un produit.
DAC numéro 15, enregistrée le 27 mars 2015 à l'espace d'art contemporain HEC à Paris.